Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Évidemment, la nouvelle qui a bouleversé le Québec, c'est l'annonce du décès samedi soir de Jean-Pierre Ferland. Vous aurez l'occasion d'entendre sa musique ce matin dans l'émission avec Catherine. On va regarder beaucoup de témoignages. Mais comme bien des Québécois, j'ai réécouté en fin de semaine une partie de l'œuvre de Jean-Pierre. Et c'est tellement riche, c'est tellement varié. Évidemment, les chansons d'amour, mais l'album jaune, il l'avait dit dans une entrevue d'ailleurs, qu'après l'hostie de show avec Charles Bois, il se sentait une pression pour lui aussi s'éclater. Et c'est ce qu'il a fait avec cet album. Ce matin, on va parler avec André Robitaille, qui a interviewé Jean-Pierre en 2021 pour un documentaire qui s'appelle « Je suis un ferland ». Et donc, vers la fin de sa vie, en quelque sorte, il aborde plusieurs thèmes. Et je vous dirais que ce qui surprend, et non, c'est son incertitude face à la qualité de ses chansons.
J'ai jamais été conscient, mais extrêmement sûr que j'ai fait des si bonnes chansons. Mes chums me disent, mes fans me le disent.
Mais t'as jamais été certain?
J'ai jamais été certain de moi.
Ça, c'est quand même la marque d'un grand talent. Et puis, dans la même entrevue, il parle de la mort avec, je dirais, sérénité et sa crainte aussi, peut-être, d'être oublié par le public.
Ton œuvre va rester. Tes chansons vont demeurer. On va écouter ta musique. On va écouter tes mots. Tout le temps. Est-ce que tu y penses des fois à ça?
Oui, et j'espère que ça va être ça aussi. Mais le public est formidable. Il te suit, il t'encourage. Mais au fond, quand Raymond Lévesque est mort, il n'y a plus personne qui s'en va. Il n'y a plus personne qui le suivait.
Ça t'inquiète pour toi?
Ça me surprendrait pas.
Ben, en tout cas, si, comme on dit en haut, il a observé ce qui se passe au Québec, il se rend bien compte que sa musique sera éternelle et que les souvenirs des gens se multiplient. Il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont écrit en fin de semaine. Comme ça arrive, chacun a un souvenir de Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre a chanté au mariage de ma sœur. J'ai été serveur au manoir Rouville Campbell. Il venait se présenter là à l'époque d'Yvon Deschamps. Et le monsieur me raconte une anecdote en disant qu'il consommait beaucoup de gin tonic, Jean-Pierre, et que Yvon était passé en disant « Arrêtez de lui en servir, faut qu'il prenne la parole tantôt ». Et c'était un bon vivant. Serge Fiori m'a écrit en fin de semaine et j'aimerais partager ce court texte qu'il m'a envoyé avec vous. Il dit « C'est à cause de Jean-Pierre que j'ai compris que je pourrais écrire en français avec des chansons populaires et progressives à la fois. Il m'a ouvert la porte et à bien d'autres également. Et la dernière fois que je l'ai vu, il m'a fait l'immense honneur de venir me chanter ma chanson préférée « Maman, ton fils passe un mauvais moment » à l'émission En direct de l'Univers. » Et beaucoup d'artistes ont témoigné en fin de semaine de l'importance de Jean-Pierre dans leur carrière et, sans le dire ou sans le faire, comment il a pu servir de mentor ou inspirer beaucoup de créateurs qui se sont dit, puis lui a fait un peu la même démarche, si un tel peut le faire, ben moi aussi je suis capable de le faire. Alors ce matin, beaucoup de musique de Jean-Pierre, beaucoup de témoignages. On sait qu'il aura droit à des funérailles nationales. Ça a été annoncé par le premier ministre François Legault. Je dirais qu'à chaque fois qu'on annonce des funérailles nationales, c'est toujours le même débat. Quels sont les critères? Pourquoi lui? Pourquoi pas un tel? Puis un autre est décédé, puis on n'a pas eu droit au même type d'hommage. Je pense que Jean-Pierre Ferland, sans enlever rien aux autres, là, il représente énormément de choses. Il représente l'évolution du Québec dans sa musique, sa passion de la langue française. Comme il l'a dit à plusieurs reprises, de bien choisir ses mots, de bien écrire ses textes, et en même temps de porter cette histoire du Québec sur ses épaules. Il me semble que c'est un hommage évidemment bien mérité. Dans les autres nouvelles, on apprend, c'est tout chaud, là, c'est sorti ce matin, que Émilise Lessard-Terrien quitte ses fonctions de co-porte-parole féminine de Québec solidaire. On en parlait vendredi avec Jonathan Trudeau. Ça brasse au sein de Québec solidaire. Il y a différentes factions, et on va lui en parler tantôt, mais essentiellement, dans son texte ce matin, elle dit « 4 mois à peine ont suffi à m'épuiser. » Complètement. « Je suis en arrêt de travail, fin mars, les deux genoux à terre et l'élan freiné. » Et elle ajoute « Je suis venu ici pour qu'on rapproche le pouvoir du monde, pour défendre le Québec en entier, pour lutter contre la renaissance des colonies comptoires dans les régions ressources pour un Québec habité de communautés vigoureuses. » Et elle dit « Voici ce que je voulais faire avec Québec solidaire. Je me suis promené aux quatre coins du Québec, d'une longue course, et finalement, je découvre quoi? Un parti divisé. Il m'est difficile de prendre la parole par souci de ne pas faire mal à mon parti. » Et en même temps, elle sent le besoin de dire « Je quitte parce que, oui, je suis épuisé, mais voici pourquoi je suis épuisé. Il y a tellement de luttes, je me suis aperçu que le train était déjà bien en marche. J'ai voulu monter, tenter d'influencer le cadre de réflexion qui a été bâti par une petite équipe de professionnels tissés serrés autour du porte-parole masculin. » Ça, ça veut dire la gang de Gabriel Nadeau-Dubois. « J'y suis parfois arrivé, mais j'ai eu du mal à y trouver mon espace. » Alors, ça se sentait, ça se savait, et là, l'abcès est crevé. Donc oui, des raisons de santé, mais disons des frictions. Et on le voit, là, ça va pas bien pour Québec solidaire dans les sondages qui sont rentrés dans les derniers jours. Baisse ou au mieux plafonne. Parlons bien sûr de la guerre Israël-Hamas. Certaines informations ce matin laissent croire qu'il y a des espoirs d'une trêve, d'un accord de cessez-le-feu, mais on le dit tellement souvent qu'on devient, je vous dirais, quand même assez sceptique. Il semble que le président Biden met beaucoup, beaucoup de pression sur Israël en disant d'abord renoncer aux attaques contre Rafah. Dans la grande région de Rafah, on trouve facilement 1 million de Palestiniens. Il y a eu des opérations militaires à plus petite échelle. Et Netanyahou répète qu'il veut, et que c'est ça son objectif, préparer et lancer une offensive militaire majeure contre Rafah. Alors, beaucoup de pression des Américains pour le dissuader. Vous avez le secrétaire d'État Anthony Blinken qui est arrivé en Arabie Saoudite dans les dernières heures. Tout ça pour essayer à la fois de négocier cet accord de cessez-le-feu et obtenir la libération de certains otages. Et quand on parle du bilan, faut jamais oublier qu'il y a pas loin de 35 000 Palestiniens qui ont été tués, 77 000 qui ont été blessés depuis l'attaque, donc la riposte d'Israël aux attentats terroristes du Hamas. Et en parallèle, on apprend que le fameux groupe humanitaire World Central Kitchen va reprendre ses livraisons qui avait été interrompu après une attaque d'Israël contre le convoi. Il y a un soldat, un ex-soldat canadien qui faisait partie des humanitaires, vous le savez, qui a perdu la vie. Et le groupe dit avoir fourni 43 millions de repas jusqu'à maintenant aux Gazaouis et que malheureusement, Israël retarde ou a retardé au fil des mois la livraison de d'autres biens de première nécessité. Pour ce qui est évidemment des gens qui sont comme complètement désarmés dans un, et c'est toujours comme ça pour les civils, c'est-à-dire des bombardements, des infrastructures rasées et l'incapacité de se nourrir, de vivre et de se soigner. Et puis il y a ces campements, on en parle depuis les derniers jours, qui se sont installés. Il y en a un maintenant à McGill, un campement pro-palestinien qui a été installé par des étudiants samedi au centre-ville de Montréal. McGill, mais il y a des étudiants, paraît-il, qui viennent également des autres universités québécoises. Et C'est une forme de protestation contre la guerre, contre le sort réservé aux Palestiniens et aussi une pression exercée sur les universités en leur disant vous prenez nos frais de scolarité, vous faites des investissements dans quel genre d'entreprise? Est-ce que ce sont des entreprises qui fournissent des armes à Israël? Et je regardais en fin de semaine aussi, il y a eu des arrestations, là, 200 manifestants juste dans la journée de samedi qui ont été arrêtés. Il y en a 800 au total depuis que le mouvement a pris naissance à l'Université Columbia. Et là, ça s'est répandu à travers les États-Unis. Et comment on laisse la liberté d'expression s'exprimer, donc, mais en même temps, quand ça dérape, puis qu'il y a de la violence ou des affrontements, comment doivent réagir les autorités? Puis il y a Mitch Garber, l'homme d'affaires que vous connaissez bien, qui a publié sur X, sur les réseaux sociaux, une photo d'un manifestant qu'il dit être dans les rues de Montréal, possible, mais il faut faire attention avec les photos qui sont partagées, là, qui a comme une espèce de fausse ceinture d'explosifs. Est-ce que c'est acceptable? Puis c'est ce qu'il demande, entre autres, aux autorités de la ville de Montréal. Est-ce qu'on peut laisser passer ce genre de manifestants sans trop réagir? Très bien. Est-ce que vous êtes pauvre? C'est une question qui n'est pas facile à répondre. Ça dépend des critères. Ce matin, autant dans la presse que dans le Journal de Montréal, on revient sur une étude qui a été faite par l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Donc, la fameuse notion de pauvreté ou encore de revenu viable moyen. En gros, pour une famille de 4 personnes, il y a des différences régionales, c'est sûr, là, mais pour une famille de 4 personnes avec 2 enfants d'âge préscolaire, quand vous calculez tout, là, l'impôt payé et les crédits d'impôt, les services qui existent, grosso modo, ça vous prend 80 000 $ à deux, là. Donc, mettons 40 000, 40 000, 45 000, 45 000, pour avoir ce qu'on appelle un revenu viable. Pour une personne, par exemple, à Montréal, c'est 37 000. Et là, si vous prenez le salaire minimum avec une semaine normale de travail, c'est sûr qu'on peut pas y arriver. Donc, l'augmentation de la pauvreté est réelle. Puis je sais qu'on peut décortiquer des études puis dire « Ouais, mais est-ce que c'est vrai que c'est autant d'argent pour l'alimentation? » Tout ça a explosé dans les 2 dernières années, c'est-à-dire le logement, la bouffe, puis les dépenses également dans plusieurs domaines. Et là, ça amène les gens à faire des choix. Puis on s'en rend compte là, que sur le plan, par exemple, de la bouffe, on en parle pratiquement chaque semaine, les Québécois ont fait des choix, se tournent vers des bannières avec des offres à bas prix. Et c'est pas une vue de l'esprit, là, c'est carrément ça qui est en train de se passer. D'ailleurs, parenthèse, les coop de l'info publient ce matin une enquête sur Dollarama. Tu sais, le gaspillage, pour toutes sortes de raisons, et on découvre finalement qu'ils ont visité une 40aine d'établissements à travers le Québec, et que dans ces établissements, dans les conteneurs à l'extérieur, on a découvert des exemples de gaspillage absolument effrayants. Notamment après la Saint-Valentin et Pâques, des bonbons, d'autres produits saisonniers, des chocolats, des décorations qui se retrouvent carrément à la poubelle. Il y a quelqu'un qui est allé fouiller puis qui a rempli son sac, c'est-à-dire sa voiture de sacs de chocolat et de bonbons, 444 qui traînaient dans les poubelles. Et évidemment, pas trop de réponses du côté de Dollarama. De la bouffe encore bonne, là, qui se ramasse à la poubelle, des produits, parce qu'on n'a pas assez de place sur les tablettes, qu'on décide de larguer. Et disons que le constat, c'est qu'on n'a pas beaucoup de tolérance sur les produits. C'est un gros roulement. Même quand l'étiquette est abîmée, on décide de jeter ça. Alors qu'il y a des gens qui ont faim puis qui n'ont pas les budgets pour être capables de suivre. Autre volet intéressant ce matin, c'est dans Le Devoir, concernant l'embauche, j'allais dire, à 10 piastres de l'heure de personnel dans les hôpitaux pour faire le ménage. Vous allez me dire, ça se peut pas. C'est le CIUS du nord de l'île de Montréal qui a fait affaire avec une agence de placement qui est dirigée par quelqu'un qui est reconnu pour faire des fraudes. Et ce sont des immigrants sans permis de travail qui ont été payés 10 piastres de l'heure pour nettoyer les hôpitaux et servir de la nourriture, notamment dans des centres de soins de longue durée. Et c'est une situation que reconnaît l'agence de placement, groupe AMS, qui a approvisionné ses travailleurs dans 4 établissements au moins, puis dans d'autres CIUS. Et là, écoutez bien, l'insulte dans tout ça. L'agence, qui a donc exploité des immigrants, des sans-papiers, là, dit que ces personnes étaient payées sous le salaire minimum comme des bénévoles. C'est des bénévoles à 10 piastres de l'heure. Hey, franchement, là. Et ben, on n'a pas eu le choix, ils n'avaient pas de permis de travail. Puis là, quand les CIUS ont commencé à fouiller dans les contrats, ben, là, pas de collaboration. Donc, officiellement, depuis février, on les a tassés. Mais peux-tu croire qu'on a embauché du monde à 10 piastres de l'heure en dessous de la table, probablement, profitant de leur statut de sans-papiers pour aller travailler, pour passer des cabarets puis faire le ménage dans certains établissements du Québec. On va revenir aussi sur le plan concernant la sauvegarde, la promotion du français. Quelques centaines de millions sur 5 ans. Bon, l'intention est noble, c'est de promouvoir et protéger la langue française, que ce soit la langue de travail, que ce soit la culture, le rayonnement. Et le ministre Jean-François Roberge a annoncé beaucoup de mesures. Puis il y a des chiffres qu'on peut voir ce matin sur la consommation, par exemple, de la musique. Francophone, anglophone, allophone, c'est clair que la musique anglo domine. C'est vrai aussi pour les jeux vidéo, c'est vrai également pour le cinéma. Et comment tu fais? Puis je sais qu'il y a comme 2 écoles de pensée. La première qui est de dire, ben, faisons la promotion, rendons la culture accessible. C'est ce que dit Québec dans le plan qui a été présenté hier. On va amener les plateformes, là, tu sais, l'image classique qui est, vous vous branchez sur Netflix, puis vous allez voir des produits québécois arriver. Paraît que c'est comme ça en France. Est-ce que Netflix va s'ajuster à ce point? Oui, il y aura des produits faits ici, puis c'est vrai pour Amazon, là. Mais est-ce qu'on va mettre l'emphase? Et les plateformes, les géants du web nous ont montré que les pressions exercées par les gouvernements, ça ne les fait pas bouger beaucoup. On a vu des mesures prises par Ottawa, puis là, après ça, il a fallu comme négocier pour être capable de s'entendre. Donc, comment tu fais la promotion quand tu n'as pas vraiment les pouvoirs? Puis est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à écouter de la musique? Là où il y a un enjeu extrêmement important, c'est l'immigration. Et là, on veut mettre l'emphase sur des immigrants francophones, des immigrants temporaires qui viennent s'établir ici. C'est très bien. Mais c'est une forte majorité de gens qui viennent des pays francophones, mais est-ce que c'est assez? Et l'apprentissage du français, pour beaucoup d'entre eux, quand ils ne maîtrisent pas le français d'avance, là, donc des gens qui viennent, par exemple, avec un statut de réfugié, ils n'ont pas le temps. Ils courent après des revenus, ils se cherchent des logements, ils veulent se débrouiller. Leurs enfants, on le dit souvent, vont finir par aller à l'école française, mais c'est sûr que c'est très difficile pour beaucoup d'entre eux de s'inscrire à des cours de francisation puis d'apprendre le français pour être capable de fonctionner. Puis on va se le dire, là, ils sont très capables de travailler en anglais seulement à Montréal. Ils peuvent gagner leur vie à Montréal sans parler un mot de français dans certains types d'emplois. Rapidement, dans les autres nouvelles ce matin, je veux vous parler de l'Ontario qui va bannir le cellulaire dans les classes. Et pas juste là dans le cas du primaire. D'ailleurs, je suis un peu étonné de voir que des enfants du primaire se promènent avec des téléphones cellulaires, mais ça, c'est autre chose. Donc, jusqu'à la 6e année, là, de la maternelle à la 6e année, interdit, et pendant les cours aux élèves du secondaire. Et là, ça peut aller d'avertissement, de suspension, donc de mesures disciplinaires. Et là, les experts s'entendent pas. Je voyais ça hier. Certains disent, oui, mais là, les jeunes sont devenus tellement accros. On reconnaît tous les dommages causés par le cellulaire, puis les écrans en général, mais comment on fait pour les, je dirais, les débrancher, faire en sorte qu'il n'y ait pas le réflexe. Donc, à partir de l'automne, dans les écoles en Ontario, pour le primaire, pas de téléphone pantoute. Éteint, fermé dans ta poche, puis il pourrait y avoir des sanctions. Pour ce qui est de secondaire, dans les salles de cours. Puis là, les profs disent comment on va faire appliquer ça. Puis le vapotage, c'est un peu la même chose. On veut mettre des détecteurs dans les écoles. Il y a comme cette volonté de dire, si on utilise un écran en classe, c'est parce qu'il y a une raison pédagogique. Et disons que c'est un débat, pas sur l'objectif, mais sur les moyens pris pour, justement, faire en sorte que le téléphone reste dans les poches et que les kids soient pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Ils vont même enlever l'accès par le Wi-Fi à des plateformes sociales. Donc, ça veut dire que Facebook, par exemple, serait barré, TikTok serait barré, Instagram serait barré dans les écoles et les jeunes, donc, n'auraient pas accès. Et puis, vous dire que Gérard Depardieu a été placé en garde à vue. On parle ici de deux plaignantes sur deux plateaux de tournage où il a posé des gestes et tenu des propos qui n'ont pas de bon sens, là, des propos graveleux pour reprendre la plainte et carrément des attouchements de nature sexuelle, notamment sur une décoratrice de plateau.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Une chance que je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça.
On peut dire sans se tromper que les Québécois ont revisité l'œuvre de Jean-Pierre Ferland après l'annonce de son décès. On le voit avec les données sur les différentes plateformes, parce que chaque Québécois a des souvenirs très précis de, je dirais, cette relation d'amour avec Jean-Pierre Ferland. On a vu Jean-Pierre chanter à des mariages, on l'a vu accumuler les succès. Et ce matin, je veux prendre le temps de faire un tour d'horizon avec des invités qui connaissent l'industrie de la musique, qui ont eu des moments privilégiés aussi avec Jean-Pierre. Notre premier invité, Mario Lefebvre, qui est une référence en musique. Il a d'abord été journaliste, a travaillé dans l'industrie, a permis de développer les talents ici au Québec, a fait venir des gens de l'extérieur pour les accompagner, s'est occupé de Garou, de Céline Dion, s'occupe de Rock Voisine. Mario Lefebvre est donc avec nous. Bonjour Mario.
Bonjour Paul.
Si tu avais à nous résumer d'abord Jean-Pierre Ferland comme individu, mais en même temps sa place dans l'industrie de la musique au Québec, qu'est-ce que tu nous dirais?
Ben écoute, premièrement, j'entends les hommages de tout le monde et puis je les partage. C'est une énorme perte ce qui s'est passé dans les dernières heures. Jean-Pierre, c'était l'artiste complet. Je dis souvent que dans notre business, pour durer, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Puis Jean-Pierre avait tout ça. Il était auteur, compositeur, extraordinaire, performeur, animateur de télévision extraordinaire. Au-delà de... On n'imagine pas à quel point c'était important ce qu'il faisait des années 80. Il a été évidemment un bon businessman. Il s'est toujours entouré de bons partenaires, Robert Vinet, Paul Dupont-Aubert, mais c'est un businessman à la base. Il avait une bonne compréhension de la business. Il avait une bonne compréhension de l'univers. Il savait exactement où se placer. Alors, au-delà de son talent artistique, c'est un artiste complet. Vraiment sur tous les sens du mot. Tous les sens du mot.
Qu'est-ce qui est le plus important, tu penses, dans sa carrière comme héritage? L'album Jaune là, qui marque encore, ou toutes ces chansons où il parle aux femmes, comme l'extrait qu'on vient d'entendre, T'es belle. Qu'est-ce qui représente le plus Jean-Pierre Ferland?
Mais Jean-Pierre, sa plus grande qualité, c'est avoir été de durer. Hein. On dit toujours que dans notre domaine, le truc, c'est de durer. Alors oui, Jaune va tout changer. Puis les gens oublient peut-être que Jaune, à l'époque, ça marque non seulement une révolution musicale, mais c'est culturellement, c'est un album très important. Parce que, par exemple, Jaune, ça joue à Chaume en même temps que Genesis, Chris de Burgh, Emerson, Lake & Palmer, Harmonium. Jean-Pierre devient un artiste rock. Et là, à ce moment-là, toute la musique, toute cette espèce de métamorphose musicale où on passe de la chanson plus traditionnelle à la musique rock, qui va arriver sur Alexandre Dufresne et les autres, mais Jean-Pierre est au cœur de tout ça. Mais sa grande force, c'est que 60 ans plus tard, il est encore capable de toucher les gens avec des chansons récentes. Une chance qu'on soit un exemple il n'y a pas si longtemps. Il en a écrit 450 chansons, Paul. Et chacune de ces chansons-là a touché une ou deux personnes à différents moments dans leur vie. c'est ça son œuvre, c'est la magnitude de son œuvre.
Bon, il a écrit pour Céline Dion, tu as travaillé avec Céline. Comment s'est passée cette rencontre-là? Qu'est-ce qui a fait que les deux ont pu unir leurs talents?
Mais premièrement, Céline et René sont des fans. Et ils l'ont été toute leur vie, des fans finis de Jean-Pierre. Et je pense que Jean-Pierre les aimait beaucoup. Il y a eu différents moments où les parcours de Céline et Jean-Pierre se sont croisés. Un des premiers, c'est lorsque René demande à Jean-Pierre d'écrire une chanson pour l'album Incognito, qui va devenir Ma Chambre. Céline en faisait référence justement dans son beau message qu'elle a mis en ligne hier. Je demeurerai toujours, 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 une chanson de Daniel Mercure et de Jean-Pierre, qui était le premier vrai, peut-être, moment là, où il y a eu une collaboration directe et artistique. Il y en a eu beaucoup d'autres après. Et le moment que je me souviendrai toujours le avec beaucoup plus de ferveur, c'est le moment de Céline sur les plaines, évidemment, parce que ce show-là, où Céline chantait avec une dizaine des plus grandes vedettes du Québec, René l'avait imaginé, on était une équipe, il y avait Denis Savage, José Fortier, on était tous en brainstorm, mais René avait fait une place spéciale pour Jean-Pierre, il voulait qu'il y ait un moment qui soit aussi fort qu'un peu plus loin, un peu plus loin sur la montagne, 30-40 ans plus tôt. Et il avait travaillé avec Jean-Pierre beaucoup. Céline avait beaucoup, beaucoup passé de temps avec Ginette et Jean-Pierre pour créer le moment qu'on célèbre tous maintenant, là, 15 ans plus tard. Et les gens doivent savoir que ça s'est fait à l'image de Céline, de Jean-Pierre et de Mme Renaud. Beaucoup de travail. Ça n'a pas été improvisé. Ils ne sont pas arrivés... Il y a eu des pratiques, des répétitions, et ça montrait justement l'extraordinaire professionnalisme de Jean-Pierre. Et lui, si vous vous souvenez, si vous regardez les images, là, tu te souviendras, Paul, que Jean-Pierre, il est un peu en retrait, il est presque obnubilé, il est presque intimidé par tout ce qui arrive. Et je me souviens, après, quand il est sorti de scène, il m'avait dit, « Mon Dieu, je pense que je viens de vivre le moment le plus important de ma vie. » Plusieurs seront d'accord avec lui.
Il donne l'impression d'assister à une performance, en fait, deux performances de ces deux chanteuses, Céline et Ginette. Il est, en tout cas, il nous donne l'impression d'être bouleversé, ému par ce qu'il est en train de faire. Même si tu dis, il a travaillé, ils l'ont répété, mais quand ça arrive devant la foule, là, on est à un autre niveau.
Mais Paul, c'est ça la marque d'un grand artiste, c'est de vivre le moment, de s'adapter à la situation, d'être capable de tout boire et tout apprécier ce qui se passe. Et ce soir-là, vous regarderez s'il y en a qui ont encore accès à Céline sur les plaines, le vidéoclip qu'on a fait avec Julie Snyder et son équipe qui est extraordinaire. Vous irez voir. Vous regardez Jean-Pierre, là, puis il est dans un moment de transe complet. C'est ça qui est formidable. Mais il a toujours été capable de faire ça, Paul. Et si tu permets, je vais juste raconter une toute petite dernière anecdote. Quand il était au top de son vedettariat en télévision dans les années 80, il animait une émission qui s'appelait Le Tourbus du Show Business, mais avant ça, il avait fait Station Soleil, il avait fait Tapis Rouge. Et il était tellement puissant en termes d'audimat, en termes de sondage. Tout le monde écoutait ces émissions-là. C'est un peu l'équivalent, dans le fond, de Drucker en Europe. Et on n'exagère pas du tout. Alors, il avait accès à toutes les vedettes de la planète. Et à un moment donné, il a décidé qu'il invitait Tony Bennett, le grand Tony Bennett, qui, à ma grande surprise, moi, je travaillais pour CBS, la compagnie disque, il a accepté de venir. Ben, il y avait la filière New York, là, les musiciens qui avaient joué sur Jaune, là, Levin, qui est dans King Crimson, et Gabriel Spinoza, qui jouait avec John Lennon. Alors, j'entends, il avait une certaine notoriété. Alors, Tony Bennett vient à Montréal, et moi, je passe 3 jours avec lui, et Jean-Pierre avait passé beaucoup de temps. Il a fait une extraordinaire émission. Et ça prouvait encore une fois l'importance et j'ai envie d'appeler ça le pouvoir, hein, l'influence que Jean-Pierre avait sur la télévision québécoise. Alors, ce sont tous de bons exemples pour montrer que c'était pas simplement un chanteur, mais c'était un artiste complet sur toute la ligne.
Merci beaucoup, Mario, d'avoir partagé ces moments-là avec nous ce matin.
Merci, Paul.
Au revoir.
Merci.
Mario Lefebvre, qui est une référence, je le disais, en musique. Vous le voyez, il a occupé des postes stratégiques avec Céline, fait venir Tony Bennett à Montréal et tout ça. Et géré, entre autres, Garou et s'occupe de Rock Voisine. Maintenant, En fin de semaine, je suis retourné voir un documentaire qui avait été présenté en 2021. Le titre, Je suis un ferlant. C'est cette rencontre avec Jean-Pierre menée par André Robitaille. C'est extrêmement touchant. Puis, je vais vous faire entendre un premier extrait ce matin pour ensuite lancer la discussion avec André. Quand Mario parle de quelqu'un qui est un grand chanteur, mais un grand artiste, on mesurait aussi dans ce document l'espèce d'insécurité.
J'ai jamais été conscient, mais extrêmement sûr que j'ai fait des si bonnes chansons. Mes chums me disent, mes fans me disent.
Mais t'as jamais été certain?
J'ai jamais été certain de moi.
Un gars pas certain avec autant de succès. André Robitaille, bonjour.
Salut Paul, ça va bien?
Bien toi?
Oui, très bien.
Ramène-nous un peu à ces tournages. On vous voit sur un lac, on vous voit chez lui, on vous voit en milieu urbain. C'est, j'appelle pas ça une confession, c'est une discussion entre deux personnes, mais qui aborde les vraies questions quand même, là.
Oui, avec le, je sais pas, avec l'inspiration du leg. Moi, j'avais envie d'aller vers qu'est-ce que tu vas laisser, quelle est la signature. C'est comme ça que j'y ai proposé aussi à Jean-Pierre, mais on est chez lui, hein. Quand on est sur l'eau, c'est son lac rivière, c'est quelque chose qu'il a créé dans son merveilleux domaine. Et j'avais le goût de voir deux bonhommes sur un ponton qui jasent la vie. Et on a même, bon, ça c'est technique, mais il n'y avait pas de caméraman avec nous. On avait vissé les caméras, on était vraiment juste tous les deux. L'équipe nous précédait sur une chaloupe. Bref, il y avait une vraie intimité qui n'est pas fakée. Et puis, on est allé dans un studio, puis après ça, on est allé devant la ville, parce que je voulais mettre une image éloquente qui était « voici ton public, voici l'effet de ton œuvre ». Puis il y avait de la misère à saisir tout ça à cause de l'humilité qu'on vient d'entendre dans l'extrait. Mais quand même, c'est vrai que c'est un entretien où je respecte beaucoup les silences aussi, alors ça donne le ton à ce genre de conversation-là qui est peut-être différente de d'autres entrevues.
Ce qui est intéressant, c'est quand, et d'entrée de jeu, tu lui dis, il y aura des questions où ça sera pas nécessairement facile, puis on aborde la question de la mort. Il semble en paix, il sait qu'il est un vieux monsieur maintenant, ça semble être, bon, assimilé. Puis il a dit à un moment donné, tu me corrigeras, ma mort, c'est pas si important. Puis là, il t'a regardé, la tienne me ferait plus de mal, tu comprends, ça me toucherait plus encore.
Ouais. C'est pour ça que j'ai décidé de pas mourir avant lui, par amour. Non, mais tu as raison, moi, ça m'a cassé quand tu m'as dit ça, mais bon, il me pointait, moi, parce qu'on était juste tous les deux, mais c'est ce qu'il pensait autour de lui aussi. Je pense à Julianne, sa blonde, aujourd'hui et tout. C'est ce genre de témoignage qu'il arrêtait pas de dire. Moi, je l'ai vu aussi dans les derniers milles, puis il y avait encore ce propos-là. Écoute, Paul, genre mon téléphone, j'ai filmé quand on lui a présenté chez lui le reportage que tu as vu. Alors, on a Jean-Pierre qui se regarde, puis tu fais, ben voyons donc, je peux mourir aujourd'hui. Il a dit des phrases comme ça après que le générique soit passé. Donc, il était en paix. Je pense qu'il est parti en paix. Puis oui, il voyait le fade-out, mais il était heureux de la vie qu'il avait. Il était heureux de la vie, donc il pouvait la quitter. C'est un peu ce qu'il disait.
Il y a un autre élément que je trouve intéressant. On savait tous que les relations avec Claude Léveillé étaient tendues pour toutes sortes de raisons, de compétition. Puis il a dit à un moment donné, il dit, on a essayé, mais ça n'a jamais vraiment marché entre nous deux.
Ben, tu sais, Jean-Pierre, on parle beaucoup de son humour, de l'amour, de son empathie et tout, mais il y avait un bon caractère aussi, tu sais. J'ai pas connu Monsieur Léveillé, je l'ai croisé juste une couple de fois, là, je peux pas, il y a deux côtés à la médaille. Mais il me dit, il était trop bon au piano, ça me faisait chier. Alors, il y avait une compétition de deux coqs à mes yeux, là, c'est un peu ma théorie. Je pense qu'il y avait aussi ce caractère-là de temps en temps, Jean-Pierre. Ça prend ce caractère-là un peu pour traverser aussi le temps dans ce métier-là. Quand Mario parlait tantôt de homme d'affaires aussi, puis ça prend ça aussi, je pense, pour mener une carrière comme la sienne.
Merci beaucoup, André. Bonne journée.
Ben, ça fait plaisir.
Au
merci,
revoir.
Paul. Merci.
André Robitaille, donc, qui a rencontré Jean-Pierre Ferland pour ce documentaire « Je suis un ferlant » paru en 2021.
Et belle, en femme ou en enfant, les cheveux longs courts, t'es belle pour longtemps, t'es belle pour toujours. Il n'y a pas d'année qui touche à ta beauté. belle pour longtemps et belle pour toujours.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Parlons du français. Québec qui présente un plan. Des mesures étaient déjà connues. D'autres se sont ajoutées au-delà de 600 millions sur une période de 5 ans. Et bon, franciser, c'est une chose. Protéger le français, c'est autre chose. Et surtout, s'attaquer aux plateformes numériques, c'est un méchant défi. Le ministre de la langue française est avec nous, Jean-François Roberge. Monsieur Roberge, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Dans toutes ces mesures qui ont été annoncées hier, là, on comprend qu'il y a beaucoup... Bon, il y a des éléments qu'on savait, l'importance de franciser les immigrants, s'assurer que ceux qui viennent aient une connaissance peut-être du français. Donc, faire en sorte que les nouveaux arrivants au Québec soient pas toujours en mode rattrapage, parce que force est de constater que pour beaucoup d'entre eux là, qui parlent pas français, c'est pas facile de trouver de la place pour apprendre le français en cherchant un logement puis en travaillant pour gagner sa vie.
Pas facile, effectivement, d'arriver dans un nouveau pays, d'apprendre une nouvelle langue. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait annoncé dans le cadre des travaux de notre groupe d'action pour l'avenir de la langue française que, dorénavant, les immigrants économiques sélectionnés par Québec, donc la partie qu'on contrôle à 100%, ben ils devront tous apprendre le français avant d'être sélectionnés comme immigrants québécois. Donc ça, c'est sûr que ça envoie un message très fort sur l'importance de la langue à la planète tout entière, puis aux gens qui veulent émigrer au Québec, ben écoutez, apprenez le français en amont. Et d'ailleurs, une des mesures du plan, c'est de déployer même des cours à distance pour des gens, pour qu'ils puissent l'apprendre avant d'arriver sur le territoire québécois.
Ça, je comprends que c'est le plan, mais concrètement, ça peut se faire à partir de quand?
Francisation Québec existe déjà, mais oui. C'est encore tout nouveau, puis on sait qu'il y a des délais un peu au-delà de ce qu'on voudrait. Même là, c'est ma collègue Christine Fréchette qui travaille le déploiement de Francisation Québec. On a lancé en juin de l'an passé. Ça aura un an là, dans quelques mois. Là, on a ajouté hier 320 millions. C'est quand même considérable pour augmenter l'offre de cours. Et ce que disait Christine Fréchette hier aussi, c'est-à-dire, je vais multiplier les formules. Donc, apprendre à temps plein, à temps partiel, en présence, en visio, en entreprise, même à partir d'un autre pays avant d'arriver ici. Donc, c'est sûr que ces millions de dollars-là vont nous permettre d'être plus flexibles, plus créatifs, puis d'augmenter l'offre de francisation.
Bon, quand on regarde, puis je reviendrai sur les plateformes numériques tantôt, là, mais il y a comme deux courants de pensée. Des gens qui font la promotion du français, qui souhaitent que ce soit une forme de... qu'on ait des mesures, là, des programmes, mais pas de coercition. Puis il y en a d'autres qui pensent qu'il faut aller beaucoup plus loin. C'est tout le débat sur, par exemple, le français obligatoire, le cégep francophone obligatoire. Vous avez choisi plus le volontariat, la bonne foi, la promotion, que de forcer les gens à apprendre le français.
On fait les deux, M. Arcan. Ça dépend des secteurs. Par exemple, pour le cégep, les gens disent qu'il faudrait bien que la Charte de la langue française s'applique au cégep. Mais écoutez, c'est le cas cette année, c'est le cas depuis l'adoption de la loi 21, de la loi 96 en 2021. Maintenant, et cette année pour la première fois, le nombre d'étudiants, le pourcentage d'étudiants des cégeps anglophones est plafonné à 17,5%. Jamais ça ne pourra aller en haut de ça. Ça pourrait diminuer, par contre. Des cours d'anglais obligatoires, vous parliez de coercition, c'est maintenant obligatoire dans les cégeps anglophones. Des examens de français, sinon il n'y a pas de diplôme dans les cégeps anglophones, c'est nouveau et c'est obligatoire. Mais au-delà de ça, il y a aussi des mesures d'aide, de soutien. Bernard Dréville en parlait hier à l'éducation. Revoir l'ensemble du programme de français au primaire et secondaire pour y insérer toutes sortes de références à la culture québécoise. Donc, apprendre le français à travers la parole de nos artistes, les paroles de Jean-Pierre Ferland, d'ailleurs, ou de Daniel Bélanger, ou d'Ariane Moffat, des paroles, des extraits de pièces de théâtre québécoises. Donc, donner aux jeunes des connaissances sur la culture québécoise pour qu'ils développent leur amour pour la culture québécoise. Là, on n'est pas dans la coercition.
Non, mais là, on va parler des zones plus, comment je dirais, des zones un peu plus complexes. Si on prend la culture, on voit que même les Québécois francophones, les jeunes francophones, s'intéressent moins à la chanson francophone. Je dis même pas québécoise, là, parce que la francophonie, c'est plus grand que ça. Mais il n'y a pas un intérêt, on le voit encore dans des tableaux publiés ce matin. Comment faire aimer la musique aux jeunes Québécois puis aux jeunes arrivants du Québec par des artistes francophones? On peut l'exposer, on peut la présenter, mais on force pas quelqu'un à aimer quelque chose, là.
Bien, notre ministre de la Culture, Mathieu, le dit souvent, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc, il faut proposer davantage de culture québécoise, que ce soit nos séries, notre télé, nos cinémas, notre cinéma, notre musique. Vous savez, en ce moment, les jeunes sont bien davantage là, sur Spotify puis d'autres plateformes pour la musique, par exemple, que d'écouter la radio, avec les quotas qu'on a à la radio pour la musique francophone. Donc, il faut faire ce qu'ils ont fait en Europe. Et c'est ce qu'on a annoncé hier. Nous allons légiférer. Nous allons changer les choses pour que les algorithmes des géants du web, que ce soit Spotify ou Netflix ou autre, proposent de la musique et des contenus québécois et francophones. Quand on ouvre notre application, là, ben, il faut être au Québec. En ce moment, si j'ouvre Netflix ou si j'ouvre une autre plateforme, j'ai l'impression d'être à New York ou Los Angeles. Quand je suis en France, si j'ouvre Netflix, je suis en France. Ce qu'on me propose d'emblée, c'est du contenu français.
Oui, mais deux choses. D'abord, est-ce que ces plateformes-là vont pas vous répondre? C'est pas de votre compétence. Vous avez beau légiférer, là, les télécoms, ça relève du fédéral. Un, deux, vous êtes un petit marché. La France, c'est 70 millions de personnes, et on a vu que même le fédéral n'est pas capable trop de les faire bouger. En quoi Québec va être capable de le faire?
Ben, on n'est pas résigné, puis Mathieu Lacombe a demandé à un comité d'experts d'évaluer les choses. On n'arrive pas avec quelque chose d'improvisé ici ce matin. Il y a un comité d'experts avec des gens qui connaissent très, très bien le milieu culturel québécois. Il y avait des constitutionnalistes aussi là-dessus, donc le point de vue légal a été étudié. Et nous sommes allés en Europe. Puis on a l'appui d'ailleurs de notre ministre des Relations internationales, Martine Biron, qui nous aide avec l'UNESCO pour voir ce qu'on peut faire. Et si ça a été fait en Europe, ça peut être fait ici aussi. Vous dites la France sont beaucoup plus nombreux que nous au Québec, vous avez bien raison, mais ça s'applique à la grandeur de l'Union européenne. C'est pas tous les pays là d'Europe là, qui ont 50, 60, 80 millions. Et pourtant, maintenant, ils ont les outils législatifs pour se faire respecter dans leur culture, dans ce qu'ils sont, par les géants.
Est-ce que depuis qu'ils ont pris ces mesures-là, l'écoute des produits culturels francophones a augmenté?
Oui, ça a changé la donne. Moi, j'ai eu des conversations avec la ministre de la Culture française qui nous disait qu'il ne reviendrait jamais en arrière parce que ça a changé la donne. Il ne s'agit pas de forcer quiconque à écouter quoi que ce soit. Et on peut toujours écouter le dernier film de Sylvester Stallone si on veut qu'on soit à Paris ou ailleurs. Mais on propose aussi autre chose. Écoutez, il y a du contenu de qualité en français, là. Quand on le connaît, puis quand on le découvre, on peut l'aimer, on peut le partager, on peut en parler à nos amis. Et c'est ça qui favorise la diversité culturelle. Quand on défend le français, on défend pas juste le français, on défend la diversité linguistique, parce qu'il y a d'autres langues aussi qui sont menacées par le rouleau compresseur là, de la langue américaine et de la culture américaine.
Merci, M. Roberge. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir. Jean-François Roberge est le ministre de la langue française.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Très bien. Les coops de l'information publient ce matin le résultat d'une enquête sur les pratiques de la chaîne de magasins Dollarama. On découvre finalement qu'il y a du gaspillage institutionnalisé, c'est-à-dire qu'on se débarrasse d'aliments, de savons, de bonbons. C'est des produits qui seraient encore utilisables. Marie-Christine Bouchard est avec nous. Elle est journaliste à la Tribune et elle a fait partie de cette équipe d'enquête. Madame Bouchard, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Racontez-nous ce que vous avez trouvé dans les conteneurs de Dollarama.
Alors, on a trouvé une multitude de choses. C'est difficile à résumer en quelques instants parce que vraiment, on a trouvé là de toutes sortes de choses. Donc, première chose peut-être qui nous a frappé, c'est à la fin des saisons. Donc, par exemple, après la Noël, après la Saint-Valentin, après Pâques, on se débarrasse chez Dollarama de tous les invendus de périssables. Donc, les bonbons, les chocolats, on en a trouvé là vraiment des centaines qui étaient encore bons. Certains avaient des dates d'expiration là jusqu'en 2026, alors qu'on les a trouvés là en début d'année. Ça, c'est une première chose. Je peux donner un exemple qui m'a frappé personnellement. Dans un seul conteneur de Dollarama de Sherbrooke, j'ai trouvé 200 calendriers de l'Avent. Vous savez, les petites boîtes en carton là, avec les petits chocolats que les enfants aiment, les petites portes qu'ils ouvrent à tous les jours. Donc, 200 dans une seule succursale, alors qu'il y en a 400 au Québec. Donc, ça, c'est un exemple. On a trouvé aussi dans des dizaines de Dollarama des savons de la marque Axe. C'est du savon, là. Il n'y a pas de date d'expiration. J'en ai trouvé dans une succursale avant qu'il soit jeté. J'ai réussi à en acheter. Je l'ai utilisé. Donc, c'est du bon savon. Donc, pourquoi il a été jeté? C'est une tâche de destruction que nous ont expliqué les employés, probablement pour faire de la place à d'autres produits. Mais c'était du savon en parfait état. Puis on a trouvé vraiment une multitude de produits, là, notamment des jouets, des sacs, des boîtes de sacs Ziploc, des bacs pour ranger des choses par dizaines, des fois légèrement abîmés. On s'est rendu compte là, qu'il y avait très peu de tolérance visiblement chez Dollarama pour les choses. Des fois, c'était seulement l'emballage qui était un peu déchiré ou une étiquette qui était déchirée, mais assez poubelle à ce moment-là, même si le produit, lui, en tant que tel, était parfaitement intact.
Il y a une pratique, je dirais, établie par l'entreprise. Ce ne sont pas des initiatives individuelles. Là, vous citez dans votre reportage un mémo du 8 avril de Joanne Chouanière, qui est chef de l'exploitation, qui donne la marche à suivre pour se débarrasser des produits après Pâques, après un moment important, le saisonnier.
Oui, exact. Donc, je vais le retrouver là. Mais bref, oui, elle dit carrément là que les produits doivent être jetés, les emballages doivent être ouverts, les articles détruits avant d'être jetés aux poubelles dans les poubelles à l'extérieur des magasins. Donc, ça, on nous a dit là qu'effectivement, c'était la démarche. Là, c'est ce que les employés appellent à l'intérieur du commerce là des tâches de destruction. Nous, par contre, en fouillant dans les poubelles, on a vu que c'était respecté dans plusieurs entreprises, dans plusieurs succursales de Dollarama, c'est-à-dire là que les produits étaient jetés et détruits. Dans d'autres succursales, on a trouvé les produits qui étaient encore tout à fait récupérables, là, qui n'avaient pas été détruits.
Dollarama a refusé de répondre à vos questions?
Oui, effectivement. Donc, on a eu droit à une réponse écrite de quelques paragraphes dans lesquels on dit pas grand-chose. On dit que Dollarama est consciente de qu'elle fait tout pour minimiser le gaspillage, qu'il y en a une petite quantité à l'occasion pour différentes raisons, mais que comme toute bonne entreprise, là, elle souhaite minimiser ses pertes. Et ils nous disent aussi là qu'ils vendent peu de produits alimentaires en comparaison, par exemple, aux épiceries ou aux magasins à grande surface. Donc, moi, j'ai quand même un peu été interpellée par la petite quantité. Petite quantité, en tout cas, par rapport à ce que j'ai vu dans les conteneurs. C'est sûr que tout est relatif, là. Mm-hmm. Mais je peux vous donner l'exemple là, après Pâques, là, dans une seule succursale de Dollarama, j'ai pris plus de 440 boîtes de chocolat et de bonbons de Pâques. Donc, est-ce que c'est une petite quantité? Ben, je pense que chacun peut en tirer ses conclusions.
Je reviens sur un article publié la semaine dernière par Marie-Ève Fournier, justement sur le gaspillage dans les magasins. Elle met en lumière que pour les vêtements, c'est plus payant les détruire parce qu'on est capable de récupérer les tarifs douaniers que si on fait un don à un organisme de charité où t'es pas payé. Autrement dit, il y a comme un incitatif de taxes ou de tarifs acheter des choses plutôt qu'à les donner.
Oui, c'est dommage, hein, tout ce système un peu institutionnalisé de gaspillage, c'est dommage. C'est un peu le but aussi de nos enquêtes. Là. C'est la troisième enquête là, que les coop mènent. On l'avait fait sur Home Depot, sur Couchard et cette fois sur Dollarama. Donc, on souhaite qu'il puisse y avoir des changements législatifs pour empêcher les entreprises là, de gaspiller comme ça des produits qui pourraient faire le bonheur de petites familles québécoises. Là. Donc, l'année passée, encore la semaine dernière, là, le Parti québécois a déposé un projet de loi pour empêcher le gaspillage des invendus. Donc, le Québec solidaire en avait déposé un l'année dernière aussi. Donc, on espère que ça va pouvoir emmener des changements au niveau des gouvernements là, pour dans les prochains mois ou les prochaines années.
Merci, Mme Bouchard. Bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée.
Au revoir. Marie-Christine Bouchard, qui est journaliste à la Tribune.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Une autre enquête ce matin, cette fois dans Le Devoir, concernant des immigrants qui ont été payés 10 $ de l'heure, donc en bas du salaire minimum, pour travailler dans des centres de soins de longue durée pour faire le ménage, servir les repas. Ils ont été embauchés par le biais d'une agence de placement qui s'appelle le groupe AMS et qui donne donc des services à des CIUS. Là, tu dis, mais comment peut-on payer des gens comme ça à un taux horaire aussi ridicule? Sarah Champagne du Devoir est avec nous. Madame Champagne, bonjour.
Bonjour.
Bon, j'essaie de comprendre un peu. Donc, l'État, par le biais des CIUS, fait affaire avec des agences. Et cette agence a envoyé des gens payés à 10 $ de l'heure pour faire le ménage?
Oui. Mais les agences en santé, c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Là, à votre micro, on en a parlé aussi pendant la pandémie. Mais là, cette fois, c'est vraiment deux hommes qui se sont confiés à moi, au Devoir, pour dire, écoutez, moi, j'ai reçu seulement 10 $ de l'heure. Sur papier, le contrat, c'était 22,50 de l'heure. Mais là, comme ils n'avaient pas leur permis de travail, les gestionnaires de l'agence Groupe AMS leur promettaient de leur donner la différence une fois le permis de travail reçu. Donc, en gros, en attendant, on te paye 10 $ de l'heure, puis quand tu auras ton permis, on te paiera la différence. Mais aucun papier, aucune preuve n'était remis aux hommes en question, aux employés de l'agence qui nettoyaient aussi. Là, vous avez nommé CHSLD, mais ils étaient dans les hôpitaux également, l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, notamment là, au sud du nord de l'île de Montréal.
Mais là, ça veut dire que l'agence facturait le plein tarif, là, le salaire minimum au CIUS, mais que quand il recevait donc l'argent pour ses employés, il gardait l'argent et ne donnait que 10 $ de l'heure.
C'est bien ça, c'est bien ça. Donc, il facturait plus que le salaire minimum. Vous savez, là, le salaire minimum, c'est rendu 15,75 $, mais pour ce qui est de l'entretien d'édifices publics à Montréal et autour de Montréal, là, le salaire est plutôt au-dessus de 20 $. Là. C'est 20, 30, 20, 60 selon les tâches. Donc, la différence est quand même de 10 $. Ça, c'est ce que l'agence prétendait payer. Mais le CIUS payait davantage encore l'agence. Mais ça, on ne le saura pas. Là, j'ai pas vu le contrat comme tel. On m'a prétexté des secrets commerciaux pour ne pas me révéler les montants exacts. Mais c'est exactement comme vous dites. Là. Heure par heure, moi, j'ai calculé tout ce que l'agence devait à au moins un de ses hommes. Et ça monte à 15 000 $ au minimum.
Mais d'abord, tu travailles et t'es pas payé à ta valeur pour ce travail-là. Deuxièmement, ça crée un sentiment encore plus de dépendance. T'oses pas quitter l'employeur parce que tu dis « je reverrai jamais mon argent
». Oui, puis le gestionnaire sur papier là, de l'entreprise qui s'appelle M. Turcotte, Marc Turcotte, me disait ben, « c'est pour ça en fait qu'on gardait l'argent parce qu'on n'avait pas le choix, il fallait qu'on ait une monnaie d'échange pour les garder jusqu'à temps qu'ils aient leur permis de travail ». Sauf que dans le cas des deux hommes qui se sont confiés au Devoir, il n'y avait pas de démarche qui avait été entamée. Moi, j'ai vérifié avec le ministère fédéral de l'immigration et on me dit « il n'y a aucun permis de travail déposé au nom de ces hommes-là ».
Ça veut dire que ces travailleurs auraient pu continuer à œuvrer dans le système comme ça sans qu'il y ait une demande formelle de permis de travail. Puis on sait et on connaît les délais là, pour l'obtention de ces permis.
Oui, ben c'est justement ce que M. Turcotte, le propriétaire sur papier de l'agence, me disait. C'est à cause des délais qu'il n'y a pas eu encore un permis de travail. Mais là, on parle d'un délai de plus d'un an. Un an, c'est quand même très long, même en délai de l'immigration. Et comme je disais, il n'y a tout simplement même pas de demande à leur nom. Donc, formellement, il n'y en a pas eu. Donc, il aurait pu attendre très, très longtemps. Là. C'est pas, c'était pas en chemin.
Est-ce que cette agence fait encore affaire avec l'État, avec les CIUS et les CIS?
Dans le cas du CIUS du Nord de l'île, là, où les deux hommes en question ont travaillé, ils ont fait une vérification. Ils ont demandé à toutes les agences, vérifier les permis de travail, s'il vous plaît. Et le groupe AMS, l'agence en question, n'a pas répondu. Donc, le CIUS du Nord de l'île me dit qu'ils avaient cessé de faire appel à ces services depuis le 12 février dernier. Mais les CIUS peuvent encore faire appel à cette agence-là parce que le Centre des acquisitions gouvernementales, là, c'est l'espèce de centre qui s'occupe de tous les achats groupés du gouvernement, notamment en santé. Et ils viennent tout juste de re-signer un contrat avec l'agence de placement comme pour la mettre sur sa liste de celles qui peuvent fournir de la main-d'œuvre indépendante en santé.
Mais c'est incroyable quand même. Là. Mettons que le CIUS le sait pas, là, mais qu'une entreprise exploite des employés parce qu'ils n'ont pas le statut officiel, puis garde de l'argent, puis avec pas trop de documents là, qui garantissent le retour des sommes. Comment ces gens-là ont réalisé qu'ils se faisaient avoir, le savez-vous?
Ben, c'est au bout, justement, de 9 mois, 10 mois, ils se disaient, mais là, j'ai toujours pas mon permis de travail. On m'avait dit que ça prendrait quelques mois ou plus. Et évidemment, c'est aussi en parlant avec des collègues de travail. Moi, j'ai parlé également avec des collègues du CIUS et ils finissent par se confier à leurs collègues en disant, ouais, je sais pas si je trouve ça normal. Puis leurs collègues leur ont dit, ben non, c'est vraiment pas normal. 10 $, c'est nettement en bas du salaire. Et puis vous le dites, est-ce que le CIUS aurait pu le savoir? C'est quand même, on parle parfois de poupées russes puis d'arrangements là entre les agences. Tu sais, les agences, il y en a vraiment toutes sortes. Est-ce que il faut, comme le ministre de la Santé a commencé à le faire, les sortir complètement? Je pense que les hôpitaux vont trouver ça difficile, mais vraiment, dans ce cas-ci, on espère qu'il y aurait eu plus de vérifications parce que même si on fait affaire avec une agence, ça ne dispense pas complètement de faire une vérification ou en tout cas une diligence raisonnable jusqu'à l'agence, ne serait-ce que pour les salaires.
Merci beaucoup, Mme Champagne. Bonne journée.
Je vous remercie.
Au revoir. Sarah Champagne, qui est journaliste pour Le Devoir.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.